Et allez, il est 12h à la pendule de Fréquence 7, l'heure de retrouver l'onde curieuse.
Bonjour à vous, les curieuses et curieux. À l'oreille indiscrète, fouineuse et audacieuse, à l'affût de ce qui se passe ici en Sud-Ardèche, vous êtes bien sur Fréquence 7. Il est midi pile ou 17h, comme le disait Nico à la régie. Salut Nico. Et vous naviguez sur l'onde curieuse. Au programme ce jeudi, place à la création, comme tous les jeudis dorénavant, ou presque, avec une interview d'Alexa Brunet, photographe que deux jeunes stagiaires, Lily Jeanne et Ophélie, avaient rencontré au début de l'été. Elles avaient parlé de son regard d'artiste et de son excellent livre de photos Odyssée 2.0, évidemment librement inspiré du mythe d'Homère et qui explore notre rapport au monde numérique. Alors je le rediffuse parce que je trouve savoureuses les questions et les regards portés par ces deux très jeunes filles sur l'art et sur le rapport à l'avenir, et pour le travail bien sûr exceptionnel d'Alexa Brunet. Il résonne aussi avec son actualité, puisqu'elle expose d'autres photos autour des superstitions et de la sorcellerie dans une expo collective qui s'appelle Terrain de jeu et qui est visible au château d'Alba la Romaine jusqu'au 1er novembre. Mais avant cela, nous aussi, en quelque sorte, nous ferons un peu de sorcellerie, puisque hier, la magie des ondes n'a pas fonctionné, alors nous allons rembobiner. Souvenez-vous, c'était mardi. Alors, qu'est-ce qu'aurait pu nous dire Clément Renoir, qui est programmateur de la salle de Rosières ? Eh bien, il nous aurait sans doute parlé donc, de cette troisième édition du festival Les Rencontres du cinéma Sévenol. Et oui, magie de la présence, Clément Renoir est là, sous nos oreilles ébahies, pour nous parler en chair et en os de la troisième édition des Rencontres Sévenol du cinéma. Bonjour Clément.
Bonjour Sophie, plaisir d'être là.
Enfin.
Oui, enfin, en vrai.
En vrai, mais ça c'est après l'agenda. Alors on rembobine encore et on fait un agenda à l'envers. On va d'abord prendre un peu d'élan pour fureter du côté de ce week-end et voir ce qui s'y passe. Dimanche concert de 70 voix qui vont vous enchanter. 70 voix vous enchantent. C'est dans le cadre de la Baume en musique et c'est donc ce dimanche à 17h à l'église de Chandelas où vont être joués à la fois le Requiem de Gabriel Fauré, mais aussi des pièces de Tchaïkovski, Stopford et Bird. Ce sera 1h30 de voix conjuguées entre le chœur de chambre, les voix en aparté, le chœur Résonance d'Aubenas et trois solistes, un soprano, baryton, une pianiste. Toutes ces voix vous convient à la beauté et à l'immuabilité des polyphonies vocales à travers les siècles. Ça donne envie. Et en plus, on note que les bénéfices seront reversés au Resto du Cœur de l'Ardèche. Plus d'infos sur le site de la Baume en musique.fr. Les tarifs, c'est 10€, 18 ou 25 et gratuit pour les moins de 12 ans. Allez-y, donc je vous répète que les bénéfices sont reversés au Resto du Cœur de l'Ardèche. Il ne suffit pas de s'appeler Monsieur Arnaud, tout le monde peut participer. On continue, j'en perds mes feuilles. J'ai oublié ma feuille pour la deuxième. Alors je compte sur toi, Nico. Qu'est-ce qui va se passer après ?
Eh ben, il me semble qu'il y a une fable musicale, non ?
Oui !
Qui est proposée par la Déambule et la Petite Bulle avec le soutien de la commune de Prades. Donc c'est donc à Prades, bien sûr. La fable musicale s'appelle La Petite Môme et ça vous emporte à l'époque d'Édith Piaf. L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans, 5 ans pour les ados et 10€ pour les adultes. Et sur place, vous retrouverez buvettes et petites restaurations, quiche, pizza, hot dog et gâteaux. Et ce sera donc ce dimanche 1er octobre, donc à Prades, à l'espace culturel, la fable musicale proposée par Déambule, la petite bulle. Je continue du coup.
Mais oui, samedi.
Ben ouais, samedi, plein de
on
choses.
On rembobine.
Carrément. Il y a le Carrefour Laïque d'Aubenas qui vous propose ce samedi à Vals-les-Bains une rencontre en hommage à la rafle des Juifs qui avait lieu le 30 septembre 1943 à Vals-les-Bains par un groupe de collaboration français. De 14 à 17 heures, ce sera donc un colloque à l'espace Sévigné de Vals-les-Bains. Il sera également inauguré une plaque sur la rue Jean Jaurès.
Et en contrepoint à tout ça, dimanche, il y aura à 15h au cinéma de Vals-les-Bains la projection, une nouvelle projection du film
de Caroline Puig-Grenetier qui s'appelle Le silence des justes.
Et c'est vraiment un documentaire qui est à la fois poétique, alors baigné d'archives bien sûr. Sur le plateau, il y a énormément de justes qui ont été sauvés sur le plateau entre le plateau Ardéchois et la Haute-Loire. Et pendant tout ce temps, ça a été tu. Okay. On ne l'a pas su. Il y a eu justement ce silence des justes. Et le documentaire va à la rencontre et va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi a eu lieu ce silence. Voilà, vraiment très très intéressant. Donc ça, ce sera dimanche
1er octobre, donc à 15h au cinéma de Vals. Et le tarif unique est de 5 euros.
Et on reste dans le domaine du cinéma ?
On reste dans l'univers du cinéma, puisque avec un appel, une annonce... Bouche de l'art et les rencontres des cinémas d'Europe, donc qui auront lieu du 18 au 26 novembre, eh bien ils organisent le jury des jeunes. L'objectif, c'est de proposer un espace d'échange où des jeunes expriment leur sensibilité et leurs différences à partir d'une expérience commune de spectateurs.
Et pourquoi on vous en parle là maintenant ? Parce que c'est ce week-end à l'USAS, samedi et dimanche, que seront proposés les films justement en visionnage pour que vous-même, jeunes de 16 à 25 ans, puissiez faire votre propre avis et désigner le film que vous préférez et qui sera diffusé
le 22 novembre au navire lors des rencontres, du coup les rencontres européennes du cinéma. La participation est gratuite, donc si vous voulez participer à ce jury des jeunes, il faut juste, j'imagine, vous rapprocher de
la maison de l'image.
Voilà.
Voilà, c'est ça, il faut avoir entre 16 et 25 ans, être scolarisé à Aubenas ou dans le coin. Et donc, ouais, toutes les infos sur le site de la Maison de l'Image. Merci beaucoup, Nico. Et je rembobine jusqu'à aujourd'hui pour terminer donc, dans cet univers du cinéma avec la projection ce soir à 20h au cinéma de Vals-les-Bains, les Quinconces. La diffusion en exclusivité du concert d'Orelsan filmé à l'occasion de son Civilization Tour à Paris, La Défense Arena. Tarif unique, c'est 18 euros et les réservations sur le site des Quinconces. Allez, on continue de parler cinéma avec notre premier invité, Clément Renoir, qui est là, donc, comme je le disais, en vrai cette fois-ci, pour nous présenter donc, la troisième édition des rencontres Cévenol du cinéma, un festival dense. Enfin, de cinéma, mais dense, c'est-à-dire concentré sur un week-end, avec en plus jeudi une séance en avant-première. C'est-à-dire jeudi, c'est ce soir.
Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Moi, j'ai pas de travail, en fait. Enfin, j'avais un travail, mais je l'ai perdu parce que, bah, en fait, je suis tombé malade. En fait, je perds la mémoire, j'ai une maladie, une maladie dégénérative.
Ok, cool ! Ok, alors on va l'encourager !
Ils ont quoi, là ?
Comme toi, mais à un stade un peu plus avancé.
Et quand je suis sorti de là-bas, tu t'imagines pas la bouffée d'air que ça m'a fait. Je veux en profiter encore un peu.
Bah, allons faire le tour du monde.
Mais d'abord, on va voir ton père, non ?
Jim ?
Ça va ? Fallait que je te voie, en fait.
Tu dégages de cette situation !
Poisson rouge, un film projeté ce soir à 20h30 en avant-première séance exceptionnelle du festival Les Rencontres Cévenol du cinéma.
Oui, tout à fait. En fait, nous avons voulu vraiment marquer le coup avant ce début de Rencontre Cévenol qui démarre du coup normalement demain, vendredi 29. On a voulu vraiment... participer à une tournée des écrans. Donc les écrans, une association qui est locale sur Drôme Ardèche, qui soutient les cinémas de Drôme Ardèche qui sont partenaires avec eux. Et on a donc eu la chance de pouvoir rentrer dans la boucle pour bénéficier, surtout de faire venir un réalisateur et un comédien sur notre territoire à Joyeuse, en tout cas à Rosières, sur le cinéma. Et c'est inédit puisqu'on arrive, on est dans le milieu rural et c'est compliqué pour nous de faire venir des intervenants, surtout une histoire de coût. Là, aujourd'hui, on bénéficie de cette tournée, donc ils viennent là, je vais les chercher cet après-midi et on va pouvoir voir cette comédie improvisée d'une bande de copains, en fait, assez sympathique, je pense.
C'est ça, c'est vraiment un film de copains parce qu'ils ont l'habitude. Donc, il y a trois réalisateurs.
Oui, tout à fait, trois réalisateurs.
Vous aurez à Rosières l'un d'entre eux, qui est Mathieu Yakovlev.
Tout à fait, oui.
Ainsi que l'un des comédiens, Fabien Strobel.
Oui.
Et je disais, oui, vraiment, film d'amis qui ont l'habitude de travailler ensemble, de créer ensemble autour de comédie.
Oui, alors ils créent ensemble autour de comédie, mais surtout là ce qui est intéressant c'est qu'on parle d'un sujet un petit peu finalement dramatique,
ouais,
avec quelqu'un qui va perdre du coup la mémoire, ouais. Et sur ça on va aussi le tourner avec de l'autodérision et assez beaucoup d'humour en fait, et c'est ce qui est intéressant dans leur façon de faire, de réaliser des films, et je pense que ça va être très intéressant pour le public en tout cas, ouais, vraiment.
Poisson Rouge, donc une séance exceptionnelle ce soir à 20h30, donc en amont du festival.
Oui.
Ce festival, ce sont les
troisième édition.
La troisième édition. Il y a pas mal de choses.
Oui, c'est vrai qu'on a fait un programme assez dense sur le week-end, pour des questions aussi d'organisation pour nous. On a beaucoup d'avant-premières. On a 6 avant-premières sur l'intégralité du programme. Je le redis, c'est très compliqué pour des petits cinémas associatifs que nous sommes d'avoir justement des avant-premières. On est assez fiers d'en avoir 6, dont le dernier film qui passe en ouverture de Eric Toledano et Olivier Nakache, ceux qui ont réalisé donc Intouchables et Le Sens de la Fête.
Et qui viennent d'ailleurs pour ce film de recevoir le prix de l'écrit à l'écran, festival qui a cours à Montélimar en ce moment, enfin qui vient de terminer.
D'accord. Et ouais, effectivement, voilà, donc des avant-premières. Je voudrais aussi faire le point sur le dimanche. Le dimanche, on a de la chance de recevoir un jeune du secteur qui est de La Gorse, Valentin Anconnière, qui va nous présenter son court-métrage du coup qu'il a réalisé récemment. Et on va aussi avoir la chance d'avoir le ciné-concert L'Ours.
Ah oui, oui, ça promet d'être
ça, c'est
assez chouette,
ouais.
et de réunir un peu tout le monde, parce que qui n'a pas vu L'Ours? Nico, tu as vu L'Ours?
Ah, carrément,
oui. Ah oui, c'est un film quand même qui a traversé les générations, et je pense qu'il est important de le montrer sous une autre forme.
Mm-hmm.
Donc le ciné-concert, c'est quand même quelque chose, moi je trouve, d'assez impressionnant à voir si on n'en a jamais vu un. Puisque vraiment, nous on avait déjà fait appel avec cette équipe The French Bastard qui vient de Grenoble, et l'année dernière ils nous avaient passé le film La Marche de l'Empereur,
mm-hmm,
et c'était vraiment, vraiment fabuleux. C'est fabuleux. Ouais. Mmh. Ça, j'invite vraiment les spectateurs à venir sur ce genre de manifestation. Bon, l'ensemble du week-end, mais au moins sur une séance. Puisque vraiment, je pense que L'Ours, c'est vraiment...
Ouais, donc c'est 17h30, on peut venir en famille, 17h30
au
pour
contraire,
bien
il
finir.
Faut venir en famille.
Pour bien finir le week-end.
Ouais.
Et puis peut-être rester jusqu'à la dernière séance, dernière projection qui est... Simple comme Sylvain.
Tout à fait.
Qui a été présenté en sélection Un certain regard au Festival de Cannes.
Oui, c'est une romance, Simple comme Sylvain. C'est vraiment une histoire entre une personne qui va en fait est bien dans sa vie, pense être bien dans sa vie, et tombe amoureuse du charpentier qui est pas loin, et du coup un petit peu les opposés s'attirent, et on finit en douceur. Voilà, on a mis des drames aussi dans la programmation, avec Little Girl Blue notamment,
oui.
Et on a voulu aussi finir avec une note un peu plus douce.
Mmh.
Ouais.
Oui, c'est ça, c'est vraiment un festival qui mêle les genres, si je puis dire.
Tout à fait.
Il y a du cinéma familial, il y a des rendez-vous familiaux,
oui.
Il y a aussi des choses un petit peu plus, peut-être un peu plus dures, un peu plus pointues.
Oui.
Et puis,
en fait, on a voulu, moi qui suis quand même en charge de la programmation, mais on a voulu, l'ensemble de l'équipe, mettre en avant divers univers du cinéma, de faire découvrir qu'il n'y a pas que des comédies, qu'il n'y a pas que des drames, qu'il y a plein de choses. Et également donc des ciné-concerts. On peut faire plein de choses avec le cinéma. Et pourquoi les rencontres ? Parce que l'intérêt, c'est que les gens se rencontrent aussi. Et se re-rencontrent. On a vécu une période difficile avec le Covid. On essaye de remonter petit à petit au niveau de toutes les structures cinéma, d'ailleurs en France. Et oui, je crois que l'histoire des rencontres, c'est vraiment comme ça qu'on l'a pensé lors de la première édition. Et qu'on continue à faire perdurer. Voilà, ouais.
Mmh. Oui, rencontre, on en a fait le constat plusieurs fois, ici même, autour de ce plateau, là, à Fréquence 7, en discutant donc, avec vos collègues des différents cinémas dans la région, des différents professionnels. Le constat est toujours le même pour faire revenir des gens en salle, c'est les rencontres qui font la différence.
C'est les rencontres, les temps d'échange, en fait. Hein.
C'est ça.
Les gens ont besoin... En fait, on veut leur montrer que le cinéma, c'est plus simplement de voir un film. Aujourd'hui, les gens, voir un film, ils le voient très bien chez eux. Mmh. Et oui, je pense qu'il y a vraiment un virage à prendre sur... il faut proposer d'autres choses. Je vois Valls qui propose, pareil, Orelsan. Mais c'est ça, voilà, d'autres propositions, d'autres choses qui permettent aux gens de venir, de revenir dans les salles obscures pour découvrir des chefs-d'œuvre, hein, puisque vraiment, il y a des choses magnifiques. Mmh. Je trouve que c'est une vraie expérience, le cinéma. Bon, nous, on en est convaincus, mais les gens doivent l'être aussi, en tout cas, pour moi.
Alors, justement... nous, on en est convaincus, c'est ce que tu dis, Clément. Est-ce que tu peux juste nous rappeler un petit peu ce que c'est que cette structure du cinéma ?
Oui, alors le cinéma Rosière. Donc, de Rosière existe depuis très très longtemps, puisqu'il a été créé par l'abbé Beck à Rosière directement, et les Rosierois qui ont construit ce cinéma. Et depuis, il perdure en milieu associatif. Il a toujours été donc associatif. Géré par l'association donc l'AEP Jean Beck, dans laquelle je fais partie. Moi, je suis au cinéma depuis maintenant 12 ans. 12 ans que je m'occupe de la programmation avec mes collègues bénévoles. Voilà. On est une toute petite structure qui sommes là pour être en complément des structures comme Obena, comme aussi bon, Livens, où c'est un peu plus compliqué en ce moment, malheureusement. Et du coup, voilà, on est dans cette... démarche de territoire au final où on reste sur du cinéma de quartier, de petits villages, où on peut proposer des séances un petit peu à toute heure. Voilà. L'intérêt de cette association, ça a été vraiment d'avoir ce côté lien avec les gens aussi. C'est pour ça qu'on est dans une démarche de rencontre avec les gens, parce qu'on est, comme ça. Voilà. Mmh. Et donc du coup, on est une quinzaine de bénévoles actifs quand même, un salarié aussi au sein de la structure, et on se débrouille un peu seul, oui, quand même. On est assez fiers d'être dépendant, enfin voilà, de ne pas être dépendant de quelqu'un, d'être indépendant. Donc du coup, on continue, et on espère que cette édition des rencontres, elle va nous permettre de continuer à travailler correctement au niveau cinéma.
En tout cas, on y sera aux rencontres. Donc je rappelle, ça commence, enfin, il y a une séance en avant-première ce soir à 20h30 avec Mathieu Yakovlov et Fabien Strobel du film Poisson Rouge. Et puis sinon, le festival en tant que tel commence demain avec le film Une année difficile en avant-première de Toledano et Nakache. Et puis samedi et dimanche, programme très très chargé avec Ninal et Le secret du hérisson, Little Girl Blue, La petite vigneronne, également avec la présence de la vigneronne Hélène Thibon, Marilyn et son juge, Acide, et puis d'autres, on l'a dit, Sur le fil des Alpes, le ciné-concert L'Ours, on le rappelle, 17h30 dimanche, et jusqu'à la soirée de clôture avec Simple comme Sylvain.
Merci.
Merci à toi d'être venu nous donner l'eau à la bouche, nous parler
avec plaisir
du festival.
Bar Mariachi, Machuca Records, Producciones Vikingas, el maestro Manu Chao con el jefe de Rumba Cana. Olvídate las penas y cántale a la luna. Cuando me pongo yo a pensar lo que me queda por caminar después de lo que he vivido ya. Y ahora mismito voy a contar. Y hay alegrías y hay decepciones, hay muy buen fondo en los corazones de la gente que a mí me acompaña cuando compongo yo estas canciones. Déjame que se lo cante, que yo a la gente es el pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la brasa, la plaza que llevan en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, es el pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza, la brasa que llevan en su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Así que cántale, tú que puedes niño, grítale, la que te pregunta qué ha pasado, y en la rumba gana cantando con mano chao. Cántale, tú que puedes niño, grítale, la que te pregunta qué ha pasado, y en la rumba gana cantando con mano chao. Que se lo cante que yo a la gente, es el pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza, la brasa que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, ese pasado, futuro y presente, de la calle, la casa, la plaza, la brasa que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera y se olvide de toda la tristeza, de todos los problemas de su corazón. Hay que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Es que la vida son dos días y uno y medio llueve. Cántale a la luna, tu compadre que puede. Que la vida son dos días. Cántale, cántale.
Eso mismo. Allez, c'était Rumba Cana avec Manu Chao, un morceau qui s'appelait Déjame. Laissez-nous chanter à la lune, laissez-nous vivre et apprécier notre présent et notre futur.
Laissez-nous imaginer un futur, et c'est ce qu'on va faire justement dans la suite de l'émission avec Alexa Brunet. On rediffuse une interview donc d'Alexa, qui est photographe aux multiples prix. Le dernier en date en 2021, c'est le prix SAIF, Les Femmes s'exposent. SAIF, c'est Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe, mais surtout une photographe aux multiples projets, aux multiples inspirations. Elle pose un regard d'une grande acuité sur le monde dans lequel on vit, en le recréant par une mise en scène et en lui offrant comme ça une plus grande dimension encore. Donc on rembobine, hein, on continue, c'est le fil de l'émission. On était fin juin lorsque cette interview a été réalisée, et Ophélie et Lily-Jeanne, nos deux très jeunes stagiaires, interrogeaient Alexa Brunet.
Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence d'Alexa Brunet qui est photographe et du coup nous allons lui poser quelques questions sur son rôle d'artiste et notamment sur son livre qui va paraître bientôt, Odyssée 2.0.
D'abord nous aimerions savoir pour vous que représente l'artiste, quelle est la notion d'artiste et comment percevez-vous ce rôle d'artiste ?
C'est un vaste programme ça. Un artiste, ça peut être plein de gens très différents. C'est pas que les photographes, hein, même je dirais que l'art en général, c'est quelque chose qui porte le monde et qui permet d'apporter un regard sur ce qui nous entoure et parfois un regard critique aussi. Je pense que l'art fait bouger le monde et nous élève en fait. Donc le rôle de l'artiste, c'est aussi de bon, non seulement d'émouvoir, mais aussi de poser des questions sur la société, sur l'environnement, sur notre monde, sur les autres en général aussi.
Et pourquoi avoir choisi la photo comme peinture de votre questionnement ?
Parce que déjà je peins très mal et je ne suis pas très manuelle en fait. La photographie a cet avantage, c'est qu'on peut appuyer sur un bouton et ça fait une œuvre. Enfin, pas forcément à chaque fois, heureusement, mais ça a une certaine facilité. Et puis surtout, la photographie capte le réel. Et bon, même si pour ma part je fais beaucoup de mise en scène, ça passe quand même par une image qui a existé. Donc c'est quelque chose que moi je fais exister à travers une mise en scène, souvent. Et cet outil-là me permet de capter cette réalité transformée. Donc pour moi, la photographie, c'est, ça a existé à un moment, c'est là, ça a eu lieu, même si c'est faux. Les choses ont été en face de mes yeux. Donc c'est pour ça que la photographie, pour moi, c'est important d'avoir ce médium-là comme un gage d'authenticité, même si elle a été fabriquée.
Quelles sont les idées que vous voulez transmettre à travers, justement, vos photographies ?
C'est assez personnel que chacun de nous a... Bah déjà, quand on discute avec les autres, on exprime des idées. Donc, pour ma part, c'est la photographie. C'est une façon, pour moi, de transmettre des idées qui me sont chères, telles que l'environnement, la lutte contre l'injustice. Alors, ça peut être très général, mais... des questions, beaucoup de questions écologiques, le droit au logement, la technologie. En ce moment, je travaille beaucoup sur la technologie. Après, il y a évidemment tout ce que représentent les dérives de notre société, que ce soit d'un point de vue agricole, alimentaire, économique. J'essaie de transmettre un message qui est... Alors, j'ai pas la parole d'un dieu ou quoi que ce soit. Hein. Souvent, je m'associe avec d'autres personnes pour fabriquer cet engagement, même s'il m'appartient hein, comme à chacun de nous. Mais j'aime travailler avec des gens qui écrivent. Donc, c'est souvent des journalistes ou des sociologues, mais ce sont un peu les garants aussi d'une authenticité de recherche journalistique. Donc cet engagement-là, il est aussi partagé avec d'autres personnes qui écrivent. Moi, j'écris avec l'image, mais eux, ils écrivent avec leurs mots. Ce qui fait que ce que je peux montrer aux autres et essayer de transmettre, qui sont des images fictives pour la plupart, comme vous l'avez compris, ça passe aussi par la représentation d'un fond, enfin, quelque chose qui est argumenté, qui est fouillé et qui est un vrai travail d'enquête.
Vous avez parlé d'engagement. Est-ce que cette transmission, pour vous, elle peut vouloir dire aussi la sensibilisation de l'autre ? Et quelle est la place, finalement, du regard extérieur ? Est-ce que vous considérez que le regard qu'on va porter sur vos œuvres est important et a un but presque de sensibilisation ?
Ah oui, tout à fait. Après, c'est un peu prétentieux de dire qu'on va changer la vision des autres grâce à son travail. Je pourrais pas dire ça. Mais je pense vraiment que l'image, parce qu'on est entouré d'images, on vit avec des images partout, tout le monde fait des images tout le temps, d'avoir des images qui percutent, ça permet de se poser des questions. Et la force aussi de mon travail, il faut l'admettre, c'est que ça pose des questions à des gens qui ne sont pas forcément posés ces questions-là, mais qui sont sensibles et qui peuvent, en voyant mes photographies, peut-être influer, en tout cas changer quelque chose dans leur manière de consommer, leur manière de se déplacer ou de communiquer. Je pense que ça a un vrai impact et je dis pas ça parce que je pense que vous êtes dans la génération qui peut être impactée par mes photographies, mais le jeune public généralement est très réceptif à ce type de photographie, même les enfants très jeunes, puisque ça leur évoque, ça les interpelle du fait que c'est pas une réalité tangible, c'est pas des images qu'on peut croiser dans la rue, mais ça rejoint un petit peu la fiction. Donc en fait, ça rejoint aussi les illustrations des livres. Et je pense que les enfants, sur un message très simple, ils sont très réceptifs. Et les jeunes aussi, évidemment.
Vous parlez d'influence, mais vous, qu'est-ce qui vous a influencé en termes de livres, en termes de films, tout ce qui rapporte à la culture ou même plus?
Je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais peut-être pas faire une liste de trop longue, mais j'aime bien le cinéma. Après, c'est plutôt des cadres ou des lumières qui, dans le cinéma, me parlent. Il y a aussi des scénarios, évidemment, mais j'aime bien David Lynch. J'aime bien... Il y en a plein, donc J'aime dans la peinture, je peux aimer des peintres pré-raphaélites, et puis je peux aimer des artistes beaucoup plus contemporains. C'est difficile de faire la liste, là, comme ça, mais... j'aime aussi la peinture classique. Je pense que Bruegel, par exemple, a eu un génie dans la mise en scène, puisque dans ses tableaux, par exemple, on voit énormément de gens qui font plein de choses en même temps. Moi, ça me parle parce que j'aime bien avoir plein de gens qui font plein de choses en même temps dans mes photos. Donc, je peux m'inspirer aussi de cette peinture-là, même la nature morte, en fait. Hein. C'est vrai que c'est très... les photos peuvent être très picturales aussi. Récemment, j'ai regardé pas mal de science-fiction. Alors, je vais pas forcément vous dire les titres parce que c'est pas forcément des bons films, mais j'aime bien le côté carton-pâte aussi dans le cinéma, on va dire cheap, du début du cinéma. Hein, on peut parler de Buster Keaton ou Chaplin. Le fait qu'on puisse voir les trucages, parce que les trucages sont pas fabriqués par un ordinateur, mais par quelques gens, quelques personnes qui sont là pour voilà, un train qui passe, un homme qui saute, et le train qui passe, et l'homme a sauté par-dessus. Enfin voilà, c'est des choses qui, moi, me touchent énormément sur la simplicité.
Parlons maintenant de votre livre, qui va paraître bientôt, Odyssée 2.0. C'est un titre qui interpelle, notamment par la référence à l'Odyssée d'Homère. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, en tout cas nous dire quel était l'objectif derrière déjà le titre du livre, et quel message, encore une fois, vous avez voulu transmettre?
Alors, l'Odyssée, c'est évidemment une revisite de l'Odyssée d'Homère, donc c'est également un parcours d'un personnage qui s'appelle aussi Ulysse, qui déambule dans une cité fictive, et dans laquelle on aborde les problèmes liés aux technologies connectées, au numérique, notamment toutes les dérives liées à la vidéosurveillance, à l'intelligence artificielle, la police prédictive, le web porno, les algorithmes, tout ce qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien et qui quelque part nous échappe, un peu comme le Ulysse de notre livre se trouve lui aussi dominé par toutes ces technologies qui finalement conduisent sa vie. Le Ulysse d'Homère, lui, était... sa vie, il essayait d'entrer chez lui, mais c'était les dieux qui décidaient, c'était le bon vouloir des dieux, s'il pouvait faire halte quelque part, et alors que lui voulait rentrer chez lui, il restait simplement resté humain, les dieux lui imposaient des épreuves qui le faisaient perdre du temps finalement, et pas aller à l'essentiel. C'est un peu le principe de notre projet sur l'Odyssée 2.0, c'est-à-dire que le héros se balade dans une ville un petit peu dystopique, anxiogène, dans laquelle il a des joujoux robotiques, et on voit qu'il n'est pas du tout libre de ses mouvements, de ses actions, de ses décisions. Il est complètement... esclave de la machine. Et petit à petit, au fil du récit, il s'émancipe de cette contrainte, de ces contraintes, pour aller vers la liberté, retrouver Ithac, retrouver Pénélope, et s'affranchir des technologies qui, finalement, l'empêchent de réaliser ses rêves. Donc c'est tout cet univers-là, et condensé dans ce livre avec les mêmes chapitres pratiquement que dans l'Odyssée. On a pris quelques libertés. Je dis « on » parce que je travaille avec un sociologue qui s'appelle Félix Tréguer, qui est spécialiste d'Internet et de l'histoire d'Internet et des technologies de surveillance. Et en fait, on a construit ce scénario ensemble. Donc, chaque chapitre reprend l'Odyssée d'origine. Et on s'extrait de la pression de la Smart City.
Finalement, ce parcours initiatique, ce sera un petit peu le nôtre, celui de notre génération, en quelque sorte, nous, en tant qu'humains, notre regard, notre vulnérabilité face à ces dangers.
J'avais envie aussi de rappeler un peu l'image qu'on avait de... Quand moi, j'étais plus jeune, on va dire presque enfant, que le futur, c'était bien. C'est-à-dire, les années 2000, ça faisait rêver, quoi. C'était les voitures volantes, la nourriture en gélule, tout se fait vite et bien et sans contrainte et on s'affranchit de la pesanteur. Et l'an 2000, ce sera génial, quoi. En fait, on avait cette idée du progrès, comme le progrès, c'est le bonheur. Maintenant, on est un petit peu revenu là-dessus, même, je pense peut-être même avant les années 2000, mais et puis on a eu le bug de l'an 2000 qui nous a tous fait craquer, mais on a cette image en tête d'un futur utopique. Moi, je pense qu'avec le temps, il y a un peu de désillusion aussi, et puis on est tous, conscients que l'époque dans laquelle on vit est quand même assez flippante, quoi. Donc, je veux dire, à votre âge, vous devez aussi vous rendre compte que c'est quand même pas rose, à tout plein de niveaux. Mais au niveau des technologies, ça va très, très, très vite. Et on est quand même esclave de tout ce qui nous entoure et qui finalement finit par nous dépasser aussi, quoi. Donc, je reviens à l'Odyssée, mais l'Odyssée, c'est pas pour rien que ça sert de livre de référence à plein d'élèves du collège. Et même, j'ai envie de dire, c'est la base de la littérature simple pour comprendre le fonctionnement humain. C'est une bonne référence, je pense, d'être parti de l'Odyssée là-dessus, justement comme un pilier. Après que l'Odyssée soit devenue dystopique, je pense qu'à la base, elle est déjà quand même assez, assez anxiogène comme histoire. Il y a plein de monstres, il y a plein de barrières qui font qu'on peut pas atteindre ni la liberté ni le bonheur en étant baladé sur une mer pendant 20 ans par tous ceux qui sont au-dessus de nous, quoi. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement on a ce parallèle assez fort avec l'histoire qui nous touche tous, en fait.
On a cette idée de monde anxiogène qui revient beaucoup dans votre discours. Mais la finalité du livre, finalement, est-ce que vous donnez un message beaucoup plus de méfiance, de crainte ou beaucoup plus d'espoir? Est-ce que vous avez cette idée quand même d'espérance, de se dire que ça pourrait s'améliorer ou qu'on pourrait faire quelque chose, en tout cas, ou agir contre cela?
Alors, à la différence d'autres projets que j'ai fait avant, comme Dystopia, justement, qui porte bien son nom, qui était un état des lieux de l'agriculture dans un futur proche, qui finit mal, forcément. Ben, dans cette histoire-là, pour une fois, il y a une fin heureuse, ce qui est assez rare dans mon travail, même si on peut voir ça comme quelque chose d'assez manichéen, mais le héros finit par s'extraire de son asservissement et sa dépendance aux technologies pour retrouver sa liberté et finalement jeter son portable et couper les caméras et s'enfuir de ce monde pour être libre, finalement, pour pouvoir vivre sans être observé, ni sans être dirigé, ni à ce que dès qu'il se met devant son poste de travail, on lui dise qu'il a une propension à la rébellion qui est beaucoup trop forte pour rester à son poste, et que finalement c'est les machines qui décident de son avenir. Là, quelque part, la bonne nouvelle, c'est qu'Ulysse redevient libre et reste humain, et ne veut pas... se rend compte qu'il faut qu'il échappe à la surveillance des dieux pour retrouver sa liberté. Donc, voilà, je suis assez contente que malgré tout le côté noir qu'on peut voir dans cette histoire, il y a une échappatoire, et elle est possible, et je pense qu'on peut tous se faire sa propre leçon de cette série ou d'autres travaux qui qui nous incite à nous dire mais oui, en fait, c'est ça, c'est notre propre arbitre. On peut aussi décider ça. Après, je pense que l'humour est très important aussi. Le fait de se dire que toutes ces images sont fabriquées avec des bouts de ficelle, hein, vous l'aurez compris, il n'y a pas de trucage numérique. Le fait que ce soit un peu grotesque, démesuré, qu'on voit les bouts de ficelle, que les robots soient faits avec des pieds de lampe, que les casques de réalité virtuelle, ce soit un bout de plastique et une râpe à fromage, tout ça fait que finalement, on s'apprête à sourire, quoi, et de se dire que finalement aussi l'humour peut nous aider à prendre du recul par rapport à cette histoire et se dire que c'est pas nous, ça pourrait être nous, mais c'est trop rocambolesque en fait. Donc c'est aussi un outil, je pense, dans mon travail de me servir de la réalité, de la transformer, de la malaxer pour en faire quelque chose qui soit beaucoup plus déjà accessible à beaucoup, mais qu'on ait un recul aussi par rapport à cette image, quoi.
Vous avez dit du coup que vous aviez une vision assez enfantine d'un futur des années 2000 assez merveilleux. Et mais du coup maintenant, êtes-vous angoissée par rapport à l'avenir ?
Ben, je pense qu'on a tous des bonnes raisons d'être angoissés par rapport à l'avenir. Après, moi j'ai un fond très optimiste, mais il y a beaucoup de choses qui font peur, quoi, qui sont pas rassurantes du tout sur ce qui nous attend dans les années à venir, hein, à tous les points de vue. Après, faut pas baisser les bras. Encore une fois, l'humour est une bonne arme. La photographie permet aussi d'exprimer ses peurs et ses angoisses et de se dire que peut-être en passant par là, on peut créer de la réflexion et je pense pas qu'on puisse changer le monde comme ça avec un livre de photographie, mais en tout cas amener à une discussion et un échange là-dessus, c'est important.
Réflexion sur notre monde, avec humour, effectivement, humour que Alexa Brunet manie dans ses photos. Merci encore une fois à Lily Jeanne et Ophélie qui étaient venues faire un stage ici à Fréquence 7 fin juin. Le livre d'Alexa Brunet, Odyssée 2.0, est disponible dans toutes les bonnes librairies, notamment ici à Aubenas. Si vous écoutez Fréquence 7 sur Internet et que vous êtes à Marseille, sachez qu'elle sera tout à l'heure à 19h à l'Hydre à mille têtes pour une petite dédicace. Et sinon, allez voir l'expo collective de photos où on peut trouver les œuvres de Myriam Chastanier, d'Anouk Evrard et d'Alexa Brunet, mais aussi expo de dessins, les dessins de Lisa Abrer, qui est illustratrice, dessinatrice, autrice, BD. Cette expo qui s'appelle Terrain de jeu est visible au Château d'Alba jusqu'au 1er novembre. Voilà, l'émission s'achève tout doucement. Reste pour nous, et notamment pour Nico, de nous dire qu'est-ce qu'on va entendre, Nico, toute cette journée sur Fréquence 7 ?
Bah, que des bonnes choses. À 15h, vous retrouverez le Telex. À 17h, la rediffusion de L'Onde Curieuse. Et à 20h, les nouvelles missions depuis la rentrée de cette année. Vous serez pendant une heure avec la playlist de mon pote.
Wow. Et nous, on se retrouve pour une prochaine Onde Curieuse lundi. Mais avant cela, vendredi, donc demain, évidemment, le Cinémascope avec la bande de potes de cinéphiles. Allez, à très vite et merci Nico.
Plaisir, bonne journée à tous.
Ciao.